L'écologie intégrale au cœur du Pays Basque. Une émission proposée et réalisée par Jeanne Busson.
Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui Aymeric Bell, donc président de l'association SOS Littoral Anglois, que nous avions rencontré la semaine dernière, qui nous avait fait découvrir le littoral de la côte basque d'hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le trait de côte d'Anglette. Et donc, nous allons essayer de comprendre son histoire, son évolution. Et donc, nous retrouvons Aymeric Bell. Alors, première question, déjà, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va se concentrer donc sur le trait de côte sur Anglette. Alors, première question, c'est quoi un trait de côte?
Alors, la définition du trait de côte, c'est ce qui correspond à la laisse des plus hautes mers dans le cas d'une marée astronomique de coefficient 120. Et dans des conditions, bien sûr, météorologiques normales. C'est-à-dire pas de vent, pas de dépression qui pourrait faire monter le niveau de la mer. Donc en gros, c'est la limite entre les jets de vagues des hautes marées, par fort coefficient, et le début de la plage, avec derrière les dunes et le reste de la terre. Et du coup, à cette zone-là, on trouve souvent... cet interstice, on trouve souvent ce qu'on appelle la laisse de mer, qui sont des dépôts laissés par la marée, dépôts d'algues, et puis parfois des dépôts de détritus.
Oui, notamment des microplastiques, malheureusement, qu'on voit beaucoup sur les plages. Alors, je crois que, voilà, j'ai fait un petit peu de recherche quand même. Il y a 20 000 ans, le trait de côte était à 12 km au large. Alors, c'est quand même énorme. On imagine donc notre littoral actuel donc, à 12 km au large. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il faut imaginer qu'il y a 20 000 ans, c'est la période du dernier maximum glaciaire. C'est-à-dire que c'est la dernière grande période de froid. Et on a un maximum d'eau qui est pris sur Terre sous forme de glace. Et du coup, le niveau de l'océan est plus bas que celui qu'on connaît aujourd'hui. Il est à peu près à 120 mètres plus bas. Donc... pour donner une idée où se trouvait la mer, sur la côte girondine, où c'est un plateau continental assez plat, la côte se situait à peu près à une centaine de kilomètres. Alors que ici, sur la côte basque, comme on a la proximité des Pyrénées, on a un relief très marqué, et bien là, la côte ne se trouvait que à 12 kilomètres. Il faut bien imaginer qu'à cette période-là, on voit des icebergs passer au large, on a des grands glaciers, hein, qui même le massif central et les Pyrénées qui forment un grand et unique glacier, on a les mammouths, on est vraiment dans une période très très froide, et du coup la mer s'est retirée à une distance qui est vraiment incroyable et étonnante par rapport à celle qu'on connaît aujourd'hui. Et puis commence le début du réchauffement climatique, réchauffement que l'on connaît toujours, sauf qu'aujourd'hui, il est accéléré par les activités humaines, mais l'océan va monter rapidement pendant 13 000 ans. Il va passer de moins 120 mètres à moins 10 mètres. Et puis après, les glaces vont se retrouver en équilibre avec le climat. Et du coup, il va remonter que de 2 mm par an pendant, on va dire, 7 ou 8 000 ans, ce qui le donne au niveau qu'on lui connaît aujourd'hui.
Le littoral que l'on connaît aujourd'hui, donc le sable qui est sur les plages, comment il est arrivé, enfin, comment se passe finalement la distribution sédimentaire sur le littoral?
Alors, il faut imaginer que quand le climat a commencé à se réchauffer, les glaces ont libéré énormément de roches et de matière qui a été emportée par les ruisseaux, les rivières et les fleuves jusqu'à la côte. Et donc tous ces sables qui sont arrivés sur la côte ont après dérivé, pris en charge par la dérive littorale. Alors la dérive littorale, c'est quoi? C'est un phénomène de courant côtier. Quand vous avez, par exemple en Aquitaine, des vents dominants de nord-ouest et vous avez des houles dominantes de nord-ouest, quand les vagues viennent s'écraser sur les plages, elles mettent en suspension le sable et le sable va suivre le courant local. Et donc, le sable va dériver. C'est ça la dérive littorale. Alors, au fur et à mesure que ça va dériver, le sable va venir nourrir les profondeurs océanes, parce qu'il y en a une partie qui va disparaître dans les fonds marins. Il y en a une partie qui va être arrachée par les vents des tempêtes et qui va aller dans l'arrière-dune et former la lande. Et puis, on a une partie qui continue à avancer, qui est toujours gaillarde et qui finit par arriver au terminus. Et le terminus en Aquitaine, c'est Anglette, avec les premiers contreforts des Pyrénées qui viennent se dresser comme un rempart. Et du coup, le sable qui arrive se déposent et s'accumulent.
Alors, qu'est-ce qui explique que, finalement, une zone, une plage, est en déficit de sable, donc en érosion, ou au contraire, accumule beaucoup de sable ?
Quand le sable qui arrive à la côte est supérieur au sable qui dérive, on dit que la plage est en engrétion. Quand le sable qui arrive à la côte est inférieur au sable qui dérive, on dit que la plage est en érosion. Il faut savoir que pour nous, pour la côte aquitaine, mais c'est quelque chose qu'on pourrait généraliser à toute l'Europe, les plages sont en général en érosion parce qu'il n'y a plus assez de sable qui est libéré par les glaciers. Ils sont devenus tellement petits qu'ils ne produisent plus assez de sable. Et donc, au début de notre ère, hein, ces apports sont devenus inférieurs au sable qui dérive, et du coup, la majeure partie des plages sont rentrées en érosion. Le cas d'Anglet est un cas particulier parce que on pourrait dire qu'il en est autant en Anglet que pour les autres plages d'Aquitaine, mais non, parce qu'en fait, Anglet se trouve à la fin de la dérive littorale, et du coup, il y a toujours du sable qui finit par arriver, même s'il y en a moins qu'avant, il y a toujours du sable qui arrive, et comme il est bloqué par ses premiers contreforts, hein, donc la pointe de la Chambre d'Amour et la pointe du Cap Saint-Martin, eh bien, il se pose, il se dépose, il s'accumule. Donc les plages, jusqu'à 100 ans, à peu près 150 ans, étaient encore en engraissement.
Merci. Alors je rappelle que nous sommes avec Aymeric Bayle, président de l'association SOS Littoral Anglois, et qui nous parle aujourd'hui de l'histoire du trait de côte sur Anglet. En 1578, Louis de Foix détourne l'embouchure de la Dour. Quel est l'enjeu et qui est Louis de Foix ?
Il faut savoir que depuis le XIIIe siècle, à peu près, la Dour n'a cessé de changer d'exutoire, c'est-à-dire d'embouchure. Parce que comme il y a beaucoup de sable qui dérive sur la côte, eh bien ces sables des fois sont tellement importants qu'ils viennent boucher l'exutoire. Et du coup, le fleuve va chercher une nouvelle sortie. Et il se trouve que chaque fois que le fleuve cherchait une nouvelle sortie, il remontait vers le nord. Et du coup, après, ça a été à la pointe à Cap-Breton, puis après, c'était à Cap-Breton, là où il y a la sortie du Boudigou aujourd'hui. Puis après, c'est monté à Vieux-Boucau. Et puis, le fleuve s'éloignait de Bayonne. Et du coup, pour le commerce et l'économie bayonnaise, c'était à chaque fois un drame. Parce que plus ça s'éloignait, moins les bateaux pouvaient venir pour charger et décharger les produits, et en plus à chaque fois on rajoutait 10 km, et c'était 10 km vers le nord pour dans des eaux très lentes où il était difficile de naviguer parce que les fonds étaient faibles, et puis les bateaux pouvaient être attaqués aussi par les berges, et il avait fallu qu'ils construisent même des châteaux forts, notamment à Londres, il y a un château fort pour protéger les bateaux qui passaient. Bon, enfin, c'est devenu très compliqué, donc c'était soit on fait quelque chose, soit on laisse mourir Bayonne. Donc Louis de Foix est arrivé. Il a eu la bonne idée de construire une digue en bois pour barrer le fleuve au niveau du lieu-dit le Trossoa, c'est à côté de la cale du Boucau, donc une digue d'une longueur de 290 mètres. Il a construit en même temps à côté un canal à travers les terres d'Anglet pour rejoindre la mer, et puis quand le niveau est arrivé suffisamment haut, le fleuve s'est engouffré dans le canal, et bon, au départ c'est un peu stagné, mais suite à une forte intempérie, le fleuve a fini par sortir à l'endroit qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors il faut imaginer que l'embouchure en 1578 se situait approximativement à côté de la capitainerie qu'il y a sur les rives d'Anglet. Cette capitainerie autrefois était la tour des signaux. Parce que comme l'entrée du fleuve était dangereuse par grosse mer, il fallait qu'il y ait des pilotes en haut d'une tour pour faire des signes au bateau pour savoir comment rentrer, où se trouvait le banc de la barre et comment passer. Et puis les sables ont gagné pendant des années sur la mer parce que tous ces sables qui arrivaient par le fleuve et qui arrivaient par la dérive littorale s'accumulaient sur les contreforts d'Anglet, la pointe rocheuse, et du coup faisaient gagner à la terre des mètres sur l'océan. Et les ingénieurs des ponts et chaussées avaient estimé à l'époque que c'était de 3 mètres par an que chaque année la terre gagnait sur la mer. Donc c'est pour cette raison que la tour des signaux après a été déplacée, on va dire 640 mètres plus à l'ouest, parce que les pilotes avaient beau faire des signes, on ne les voyait plus, ils étaient trop loin de la mer. Donc on a reconstruit une tour plus loin pour être au plus proche du littoral.
Et comment, dans le paysage, justement, on peut constater l'avancée du trait de côte, hein, et à quelle vitesse aussi?
Alors, autre signe que l'on peut constater pour l'avancée de la mer au nord d'Anglette, l'avancée de la terre, pardon, sur la mer au nord d'Anglette, c'est la construction de digues toujours plus à l'ouest. Il faut imaginer que depuis que l'embouchure se trouve à peu près à l'endroit où elle est aujourd'hui, les ingénieurs ont dû construire par tranche de 200 mètres des digues toujours plus à l'ouest pour endiguer le fleuve et empêcher que les sables qui arrivaient du nord débordent trop dans le lit de la rivière et viennent créer un banc qui pourrait obturer le fleuve et donc empêcher le commerce. Donc ça, c'est sur le nord du littoral un autre constat de l'avancée de la terre sur la mer. Au sud du littoral, on peut imaginer la petite chambre d'amour, les falaises qui sont, dès qu'on a passé la pointe, à pied ou en voiture, les falaises sont creusées de façon très régulière, comme un demi-arc de cercle. Donc ça, c'est la mer qui venait taper avant contre ces falaises, qui a poli la falaise. Et du coup, comme le sable s'est accumulé, eh bien, la mer aujourd'hui se trouve, on va dire, 100 mètres plus en arrière. Et du coup, ces falaises qui étaient à l'époque des falaises vivantes sont devenues des falaises mortes. Voilà. Et encore un dernier exemple, eh bien, c'est la grotte de la Chambre d'Amour. Cette grotte a été décrite pendant longtemps dans la littérature comme une grotte où on pouvait se réfugier quand il y avait des intempéries. Et puis aujourd'hui, ben, la grotte, elle est à 200 mètres de la mer, là aussi, parce que le sable s'est accumulé. Pour l'histoire de la grotte de la Chambre d'Amour, il y a un scientifique, un médecin géologue qui s'appelait Jean Thor, qui est venu en 1806 à Bayonne, et il est venu sur la côte pour faire une description. Il explique que la grotte de la Chambre d'Amour, à cette époque-là, pour y rentrer, on ne peut y aller qu'à marée basse, et qu'elle fait 6 mètres de haut. Ça, c'est en 1806. En 1835, il y a un monsieur qui s'appelle Morel, qui est aussi un autre scientifique, qui passe au même endroit et qui décrit à son tour la grotte de la Chambre d'Amour. Et il dit que maintenant, pour rentrer dans la Chambre d'Amour, il faut rentrer par le haut, descendre, que heureusement que les gens du village la déblayent, parce que sinon, elle serait submergée par les sables. Et que la mer se trouve à une centaine de mètres et qu'on a quand même bien du mal à comprendre l'histoire de la légende. Puisqu'on se dit la mer n'est jamais venue jusque-là. Et donc on imagine qu'en 30 ans, l'ensablement, l'engraissement des plages a tellement été important que ça a suffi pour obturer une grotte de 6 mètres de haut.
Est-ce que vous pensez que cette légende, elle est quand même inspirée de faits réels ou vous n'en avez aucune idée?
Pour avoir pas mal travaillé le sujet, je pense que oui, enfin, souvent les légendes sont tirées de faits. On l'a encore vu il n'y a pas très longtemps, hélas, au phare de Biarritz, il y a un jeune couple qui s'est fait emporter par la mer un jour où il y avait des grosses vagues. Je pense que cette légende, elle est tirée, parce qu'on sait que la plage, cette plage de la Chambre d'Amour, c'était un peu la plage des Bayonnais autrefois. Quand il faisait chaud l'été, que les gens avaient besoin de se rafraîchir, c'était le chemin le plus court depuis Bayonne pour aller sur la côte. Et donc, il y a des descriptions de gens qui se baignent déjà au début du XVIIIe siècle. Mais beaucoup de gens qui viennent, alors c'est sûr, ça leur prend la demi-journée pour venir, alors qu'aujourd'hui ça prend 10 minutes. Hein, donc quand on partait, c'était l'expédition. Et puis ben, les gens ne savaient pas nager à cette époque. Donc il est tout à fait possible que des gens soient allés s'amuser dans les rochers, parce que c'est vrai que les cavités, ça a toujours un petit côté secret. Et puis, ben, se soient fait emporter. Et du coup, ils ont tiré une légende pour sensibiliser les gens des risques qu'il peut y avoir à s'approcher trop près de la mer. Donc oui, je pense qu'il y a une part de vrai dans cette légende.
Merci Aymeric Bayle, président de l'association SOS Littoral Anglois, et merci de nous avoir expliqué pourquoi le littoral est en mouvement. Et pour la commune d'Anglette, vous nous avez montré où se trouvent les stigmates de ce mouvement du trait de côte, notamment au lieu de la Chambre d'Amour, connue pour sa légende. On vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière partie. On parlera de la solution artificielle pour maintenir le stock de sable des plages d'Anglette. Bon lundi à tous sur Radio Lapourdi.
L'écologie intégrale au cœur du Pays basque. Une émission proposée et réalisée par Jeanne Busson.